7h24.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et plateau ce matin sur le climat, alors que la sécheresse s'installe en Méditerranée, que le Brésil fait face à des températures records et que, pour le dire simplement, tous les indicateurs sont au rouge vif. Vos questions, amis auditeurs, amis auditrices, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Pour en parler, Emma Aziza, hydrologue, experte en adaptation climatique, et François Gémen, professeur à HEC, chercheur en gouvernance du climat et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. On se souvient avec Léa d'une matinale en août 2018, il y a 6 ans, quand Nicolas Hulot démissionnait en direct. Il disait déjà que la planète était au bord du gouffre, qu'on regardait ailleurs et qu'il ne le supportait plus. 6 ans plus tard, le secrétaire général de l'ONU dit lui aussi, en présentant le rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, que la planète est au bord du gouffre, que la pollution par les combustibles fossiles provoque un chaos climatique sans précédent. Pensez-vous, Emma Aziza, que là aussi, là encore, on va regarder ailleurs ?
Eh bien oui, à partir du moment où nos cerveaux se refroidissent l'hiver et qu'on est très très loin d'une canicule, on a tendance à oublier, notamment en France, que nous sommes le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. 20% plus vite que le reste du monde.
Pourquoi ?
Ce n'est pas rien, tout simplement parce que nous sommes la porte d'entrée de l'océan Atlantique en direction de l'Europe. Tant que nous avons des masses de pluie très importantes, ce qui est d'ailleurs le cas cette année, eh bien nous sommes plutôt riches en eau, nous sommes un pays à la base tempéré, sauf que eh bien depuis 2017, il y a une bascule. Cette bascule, elle s'explique par une augmentation des températures. On a l'impression d'avoir toujours les mêmes titres de journaux chaque mois, chaque année, record historique de température mensuelle, annuelle. Eh bien, tout ça, à un moment donné, ça ne s'est pas vu entre 2000 et 2015. Et à partir de 2016, il y a une bascule. 2017, 10 mois sans pluie. Et à partir de là, eh bien, en réalité, l'accélération et la transformation du pays va être très rapide. On passe de situations dépressionnaires qui amènent de l'eau à des situations anticycloniques où on perd notre eau. Et donc, ça signifie aujourd'hui qu'on est vulnérable parce que sans eau, il n'y a pas d'économie.
On va faire le point, mais juste, je reviens sur cette phrase que vous avez dite là à l'instant. C'est-à-dire que la France, de tous les pays du monde, est le pays où la transformation du climat est la plus rapide.
20% plus rapide que le reste du monde. Deux études le mettent en évidence. Une de l'Organisation Météorologique Mondiale et une autre française, notamment avec Météo France. Et donc, en fait, si on suivait les événements chaque année, c'était facile de le voir parce que on a vu une transformation extrêmement rapide. Vous allez en Haute-Garonne à Toulouse, avant vous aviez de la brume et du brouillard tous les matins. Ça n'existe pas. On perd aujourd'hui notre rosée. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui se déroule. On est en train de planter des oliviers à Pau. Les Hauts-de-France ont des records de ventes de piscines. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Mais tant que ça reste agréable et tant qu'on n'est pas sur des situations comme le vit le Brésil aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. Mais là où il y a un signe faible, c'est notre économie qui, elle, par contre, ne peut absolument pas se passer d'eau.
Ce rapport, François Gémen, de l'ONU, montre que les records ont été battus en 2023, voire dans certains cas pulvérisés, s'agissant des niveaux de gaz à effet de serre, des températures de surface, du contenu thermique et de l'acidification des océans, de l'élévation du niveau de la mer. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Comment recevez-vous cela ? Est-ce que vous aussi, vous avez un peu marre, comme Emma Aziza, de voir les titres de journaux qui annoncent la catastrophe toutes les semaines ou tous les deux mois et rien ?
Disons que je suis un peu inquiet qu'on le voit toujours comme quelque chose d'exceptionnel, alors qu'en réalité, les records de température, par exemple, c'est mécanique. Comme le changement climatique est un problème d'accumulation, comme la plupart des gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère, tant qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre, mécaniquement, nous continuons à battre des records de température. Il faut dire que tant que nous n'aurons pas atteint la neutralité carbone au niveau mondial, donc tant qu'on ne sera pas capable de retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre qu'on y envoie, nous sommes condamnés à battre des records de température continuellement. Mais on les voit sans cesse un peu comme des alertes exceptionnelles, comme des signaux d'alarme. Je pense qu'il faut vraiment intégrer le caractère structurel du phénomène, intégrer le besoin, Emma Aziza l'a rappelé, de l'adaptation, d'adapter nos territoires, notre économie. Et je pense en fait, au risque d'être un peu provocateur, que ces discours alarmistes et que ces rapports continuels, en fait, finissent par provoquer une certaine forme d'immobilisme et de lassitude. Je pense que de plus en plus de gens aujourd'hui se disent qu'il n'y a rien à faire. Et le problème de ces signaux d'alarme, c'est qu'ils mettent sans cesse l'accent sur le problème, sans proposer aucune solution, sans montrer qu'il y a des issues possibles. Et donc, je crois qu'il faut absolument renverser la table de la communication sur ce sujet. On n'arrête pas de dire aux gens les risques qu'il y a, les risques qui vont se produire s'ils n'agissent pas. On ne leur montre jamais les intérêts et les bénéfices qu'ils peuvent retirer à agir. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, l'action contre le changement climatique est perçue comme une contrainte plutôt que comme un projet. Et donc, ça suscite évidemment des réactions d'hostilité qu'on voit très bien en politique.
Vous êtes d'accord avec ça, Emma Aziza ?
Oui, je suis d'accord sur nos émissions. Le problème, c'est que si, par exemple, on parle du cycle de l'eau, la manière dont aujourd'hui il est déstabilisé, ce n'est pas que lié au changement climatique. L'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas qu'une question de changement climatique. C'est la couche qui vient exacerber le tout. Tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut redonner sa place, par exemple, au cycle de l'eau dans nos villes, il n'y a absolument plus d'espace pour que l'eau puisse s'infiltrer en verticalité. Tant qu'on aura des sols agricoles compactés, où il n'y a plus de microbiote, où il n'y a plus de qualité de ces sols, qu'on perd nos sols, eh bien en réalité tout ça, ce n'est pas dû au changement climatique. Le changement climatique, il vient, et en fin de compte, c'est la couche supplémentaire qui exacerbe le tout et qui nous montre à quel point on est vulnérable et on ne regarde pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est pas tant de se dire, est-ce qu'on fait peur, on ne fait pas peur, c'est de se dire la réalité elle est là, soyons lucides et soyons courageux, parce que les solutions on les a, la nature est très résiliente lorsque vous restaurez les cycles, par contre il va falloir regarder la fenêtre et l'image globale, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter de regarder un élément, il faut regarder le tout, l'enchevêtrement, on est sur des territoires complexes, agir sur un élément va avoir des conséquences sur un autre, et donc quand on regarde le tout, eh bien on se rend compte que oui, il y a des solutions, la seule solution qu'on n'a pas, c'est celle de les mettre en œuvre.
Bah, on va venir aux solutions dans un instant, mais vous dites, je reviens sur ce que vous disiez François Gémen sur la communication et sur ces alertes de ces rapports alarmistes tous les mois ou tous les six mois. Il y a les rapports alarmistes et puis il y a ces urgents de l'AFP, des agences qui sortent quand on voit que la température ressentie au Brésil il y a trois jours était de plus de 62 degrés. Comment on reçoit quelque chose comme ça? Bon, c'est la température ressentie, ça veut dire qu'il faisait que 42 degrés en vrai.
42 degrés, et ce qui fait que la température ressentie est de 62 degrés, c'est qu'il y a une humidité très forte dans l'atmosphère et malheureusement, plus la température va monter, plus l'humidité de l'atmosphère va augmenter. Pour chaque degré supplémentaire qu'on prend, on prend 7% d'humidité supplémentaire dans l'atmosphère. Donc là encore, on est malheureusement sur les records de température, sur quelque chose d'assez mécanique, qui évidemment peut inquiéter, qui évidemment peut alarmer et qui évidemment pose des conséquences assez lourdes, notamment en termes de santé publique. Mais je crois vraiment qu'il faut intégrer le caractère structurel de cela. Et comme je le disais, il faut absolument présenter aujourd'hui...
C'est-à-dire qu'il faut se préparer, comme disait Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, au fait que la France elle aura plus 4 degrés
mais
à la fin.
Bien entendu. Et ce scénario de plus 4 degrés, qu'on voit encore comme un scénario catastrophiste, voire défaitiste, je suis désolé de le dire, mais c'est encore un scénario relativement médian qui correspond globalement à l'hausse de température en France d'ici 2100 si tous les gouvernements aujourd'hui respectent à peu près les engagements qu'ils ont pris dans le cadre des négociations internationales. Donc c'est ce qui se passera si Trump n'est pas réélu en novembre.
C'est la trajectoire, Emma Aziza ?
Je crois qu'effectivement, il va falloir avoir plusieurs coups d'avance comme aux échecs. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'adaptation. L'adaptation, ça prend du temps. Moi, je le vois, je travaille sur ces questions-là depuis 15 ans, sur le risque inondation, qui était le seul sujet en France durant des années, parce qu'on avait eu 2002, 2003, 2005, entre l'Hérault et le Gard, on avait eu des victimes. Et donc, on a eu des politiques très actives sur ces sujets-là. Ça prend du temps. Il faut aller maison par maison, entreprise par entreprise, aider les gens, leur permettre de comprendre à leur échelle la hauteur d'eau qui peut arriver. Et puis ensuite, les aider à se transformer, aller chercher des financements. Tout ça, c'est une quantité d'énergie colossale. Aujourd'hui, il faut la mettre maintenant sur la question des sécheresses. Le risque de retrait gonflement d'argile coûte plus cher que le risque inondation. Et surtout sur un autre risque qu'on ne regarde pas encore, c'est le risque de manque d'eau. On l'a vu en France, plus de 1300 communes ont manqué d'eau. Mais c'est surtout l'eau d'ailleurs qui commence à manquer. Et là, on ne se rend pas compte de notre dépendance.
Alors justement, l'hiver 2023 avait été particulièrement sec en France. Comment jugez-vous l'hiver 2024? On en sort et les perspectives pour l'été qui arrive?
Alors, on n'est absolument pas du tout dans la même configuration. L'année dernière, à la même époque, on avait 80% de nos nappes qui étaient dans un état extrêmement bas et qui laissaient augurer effectivement un été très compliqué. Là, on voit très bien qu'on a changé de situation. On a même eu trop d'eau dans les Hauts-de-France. On a tout de même les Pyrénées-Orientales qui restent un cas particulier. Mais par contre, je crois qu'il faut qu'on regarde, quand on est dans une situation, on est dans le hors-norme, dans le jamais vu, puisque ce sont des températures qu'on n'a jamais eues. On a très peu de marge de recul. Et celle que l'on a, eh bien, c'est par exemple celle de l'année 2018. Elle ressemble beaucoup à cette année. 2018, c'est janvier, où il va y avoir plus de pluie sur le bassin parisien qu'en janvier 1910, lors de la grande crue de la Seine. On va avoir une très importante crue de la Seine, mais moins de dommages, ce qui veut dire qu'on gère tout de même beaucoup mieux. On va avoir un printemps très pluvieux et 3 semaines de canicule au mois de juillet vont suffire pour refaire basculer la France dans un état de sécheresse historique. Ça signifie qu'on a des sécheresses éclairs qui s'installent en France. C'est quelque chose que l'on voit partout. Et donc, ces dynamiques...
C'est-à-dire, même s'il a beaucoup plu en hiver, on peut avoir une sécheresse cet été.
Exactement. Vous mettez la France sur un grill à partir du moment où il fait 40 degrés dès le mois de juin. Et donc, il y a un phénomène d'évaporation, d'évapotranspiration. À partir du moment, en ce moment où on se parle, hier c'était l'équinoxe, eh bien, nous commençons le printemps, c'est-à-dire nous avons une vidange des nappes qui naturellement existe parce que le printemps naît lorsqu'il se serre dans les nappes phréatiques. Ce vert que vous voyez, eh bien ça signifie que la moindre goutte d'eau qui arrivera à partir de maintenant ne sera plus efficace et ne rejoindra plus jamais les nappes. Comprendre ça, c'est comprendre aussi qu'il va falloir les préserver, ces nappes, et donc arrêter les solutions court-termistes qui les vident lorsque c'est encore possible, avant, derrière, de servir finalement, parce que c'est une logique où c'est un socle, une nappe phréatique, qui va servir à la fertilité des sols, qui va servir à avoir de l'eau dans nos cours d'eau, qui va servir au vivant. Si vous enlevez ça, le vivant s'effondre. Et je crois qu'on n'a pas encore compris qu'on est dans ce vivant-là.
Alors, allons-y sur les solutions. Quelles sont les solutions face à cela? Vous allez nous les dire, Emma Aziza, puisque vous êtes hydrologue. Quelles sont les solutions pour préserver les nappes? Mais au niveau plus macro, si j'ose dire, François Gemène, quelles sont les solutions? Puisque vous, votre mantra, c'est de dire, allez, voyons le verre à moitié plein, et voyons ce qu'on peut faire au lieu de déplorer.
Je crois qu'il ne faut rien minimiser de la gravité de la situation, et tout le monde est conscient de la gravité, tout le monde est conscient de l'urgence, mais en même temps qu'on dit ça, il faut aussi, je pense, mettre l'accent sur les solutions et dire qu'il est possible de réussir cette transition à tous les niveaux, au niveau du climat, mais aussi au niveau des ressources en eau, et certainement au niveau de l'adaptation. On le voit aujourd'hui, les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé de 4,8% l'an dernier. Alors c'est quand même un résultat encourageant. Il y a bien entendu une partie que j'estime à peu près à la moitié, qui est conjoncturelle, qui est liée à la hausse des prix de l'énergie, à l'hiver particulièrement doux. Mais c'est pareil dans les autres pays. Le Royaume-Uni a baissé de 5,7% l'an dernier. En Chine, on n'a pas encore les résultats pour 2023, mais en 2022, les émissions avaient aussi baissé. On a parfois tendance à se focaliser exclusivement sur le problème, et donc de ce fait, le discours sur l'action écologique et sur l'écologie est un discours permanent de contraintes, d'efforts supplémentaires à réaliser,
de déplorations,
c'est-à-dire qu'on joue sans cesse sur la colère, l'indignation, la peur. Je pense qu'il faut aussi redonner du volontarisme à tout ça et se dire que nous allons pouvoir y arriver.
Comment ?
Par exemple, en mettant en lumière ce qui fonctionne. Qui dit aujourd'hui que les émissions de l'industrie ou du bâtiment ont considérablement baissé en France? Ce sont des secteurs qui sont parmi les plus gros postes d'émissions de l'économie et dont les émissions baissent. Là où les émissions ne baissent pas encore, c'est sur les transports. C'est pour ça qu'on a créé l'Alliance pour la décarbonation de la route, pour mettre ensemble tous les acteurs de la route et dire qu'il était possible de mettre en place des solutions et de faire aussi baisser les émissions de ce secteur. Sur l'adaptation, il y a plein de choses à faire en termes d'aménagement du territoire, en termes de notre rapport à l'usage de l'eau, potentiellement sur ce qui concerne la tarification. On a tendance aussi sans cesse à opposer les solutions les unes aux autres, à opposer la technologie au changement d'usage et de mode de consommation, alors qu'il va falloir combiner les deux et aussi voir comment potentiellement la technologie peut faire évoluer les usages. On le voit sur les compteurs électriques, il y a certainement moyen aussi sur l'eau de faire évoluer les usages et notre rapport à la consommation.
Emma Aziza, vous êtes d'accord ?
Alors, le problème, c'est que, eh bien, on devient de plus en plus éco-citoyen et on consomme de moins en moins d'eau en France. Et ça devient un problème parce que, en réalité, l'eau paye l'eau aujourd'hui. C'est-à-dire que la facture d'eau que vous avez, c'est simplement lié à la quantité d'eau que vous consommez. Et ça n'arrange pas tout le monde lorsque vous baissez de 10% votre consommation, vous baissez également la facture d'eau. Et donc, on est face à un vrai problème, que ce soit les géants privés ou publics du secteur, qui se retrouvent avec moins de financement, notamment pour eh bien, gérer toutes ces conduites qui nous permettent d'avoir de l'eau magique dans notre robinet. Donc, je crois qu'aujourd'hui, bien entendu qu'il faut travailler sur ces usages, il faut revoir le modèle. Il faut arrêter derrière de se baser sur une logique où notre consommation va nous rapporter des financements. Donc, aujourd'hui, on doit simplement comprendre que ce prix de l'eau, il est effectivement pas cher du tout, qu'il va falloir le transformer, on n'a juste pas le choix. Mais il va falloir aussi aller très très vite, prendre des très grandes décisions. Les économies d'eau, on sait très très bien comment faire pour baisser jusqu'à 50 à 80% d'utilisation d'eau à l'échelle de notre maison. Les réducteurs de débit, les douches, etc. Tout ça, c'est facile. C'est juste que ce n'est pas déployé massivement. Il faudrait même les offrir, ces solutions. Il faudrait les obliger. Ça, c'est à l'échelle domestique. Mais ensuite, il y a d'autres
usages. Pour les agriculteurs. Alors, pour les agriculteurs, on le sait, dans les Pyrénées-Orientales, c'est une catastrophe. Oui. Ils demandent le stockage d'eau. Alors maintenant, c'est le terme qui est pris pour pas dire méga bassine, mais quelle est votre position sur ça?
Alors, le problème des méga bassines, il est très simple. C'est que vous allez prélever de l'eau dans une nappe qui, à la base, alimente une rivière, et donc vous allez déconnecter la nappe de la rivière. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, cette eau, une bassine, c'est à peu près 260 piscines olympiques, vous allez mettre de l'eau croupissante, c'est-à-dire une eau qui va croupir. Or, la France s'est construite et a tout fait pour chasser l'eau des villes, pour faire en sorte de mettre l'eau le plus loin possible, parce que l'eau est signe de maladie. Également, on a en tête l'historique du choléra en France. Et donc, en fait, aujourd'hui, mettre de l'eau croupissante, c'est des risques de développement de salmonelle, de développement de cyanobactéries, des développements algaires. Ce sont des systèmes qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a tellement de déploiements d'algues qu'il faut parfois envoyer des plongeurs pour aller décolmater les systèmes d'irrigation. Donc, on voit que c'est une solution court-termiste qui a été choisie par un monde agricole qui n'a pas eu trop de choix parce que la bascule a été trop violente.
Alors, quel est l'autre choix pour un agriculteur des Pyrénées-Orientales qui n'a plus d'eau pour irriguer ses cultures?
Alors, les Pyrénées-Orientales, c'est une situation extrêmement particulière qui ressemble à l'Espagne, parce que on arrive devant le mur. Là, il n'y a plus d'eau dans les nappes, il n'y a plus d'eau dans les rivières, il n'y a plus d'eau dans les manteaux neigeux. Donc, on voit, il n'y a même plus de tramontagne. Donc, on perd notre vent qui nous amenait justement ces cycles de l'eau. Donc, on voit très bien qu'effectivement, il va falloir restaurer à la parcelle. Il va falloir jouer avec des modèles qui utilisent le fait de gérer la vapeur d'eau et de la restaurer dans le sol. Il va falloir retravailler ce microbiote du sol. Je crois que dans les Pyrénées-Orientales, si nous n'avons pas de désalinisation d'eau de mer, nous n'aurons que très peu de solutions pour permettre l'habitabilité sur la durée.
On passe au standard d'Inter. Patrice nous y attend. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Tout arrive, hein. Ça fait 30 ans que j'essaye de contacter France Inter. Alors, je voulais vous faire un constat et vous poser une question. Et la question viendra du constat, en fait. Hein. Le constat, c'est que notre économie est basée sur un PIB qui doit toujours croître de plus en plus. Donc ça veut dire toujours plus d'extractivisme, de productivisme, de consumérisme et de corruption, en fait, de la nature et de l'humain. Et là-dessus, la liste est longue. Hein. Donc ça, je suis vraiment effrayé parce que je suis à la retraite et ce que je constate aujourd'hui est absolument effrayant pour moi. Mmh. Alors, dans les années 60...
Ça, c'est le constat, donc, la question...
Alors, attendez. Dans les années 60, ma famille était nourrie par un jardin de 250 mètres carrés. Et c'était gratuit. Fruits et légumes, il suffisait de semer. On avait un poulailler, on avait un clapier. Et c'était gratuit. Et Emma Aziza sait que la nature opère avec une économie de moyens remarquable. Hein. Donc, la terre s'amendait naturellement. Il y avait des saisons, il y avait un terroir. Et puis, point barre. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on veut toujours plus. Ma question, c'est que pour moi, vu ce que je constate au jour le jour, c'est-à-dire un effondrement, hein, on l'a sous les yeux, hein, donc c'est effrayant. Ma question, pour moi, l'optimisme de François Gemelle est en fait me convient pas du tout, quoi, parce que il a l'air de se satisfaire des baisses d'émissions qui sont en cours. Mais le PIB qui doit toujours croître, toujours plus d'énergie. J'ai envie de poser une question. Toujours plus d'énergie, pourquoi faire ?
D'accord, la voilà la question. Merci Patrice. Donc, la croissance du PIB fondée sur la destruction de l'environnement, c'était le cœur de l'intervention.
Et votre optimisme, Béa, dit l'auditeur, François Gémet.
Patrice, ne vous méprenez pas, ce n'est pas de l'optimisme Béa. J'ai été auteur pour le 6e rapport du GIEC, donc je sais la gravité de ce qui se passe. Je sais que nous n'avons pas encore atteint le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre. Mais néanmoins, c'est quoi la solution? La solution, c'est de s'indigner, de se lamenter, de ne rien faire. Je crois qu'aujourd'hui, on a une obligation morale de volontarisme et de jeter absolument toutes nos forces dans la bataille. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons, plutôt que de nous lamenter sur les effets, je dirais malheureusement mécaniques, des émissions de gaz à effet de serre et plus globalement de la destruction des écosystèmes, je pense que nous avons une responsabilité morale vis-à-vis de ceux qui prennent dans la figure de plein fouet ces impacts. Nous avons une responsabilité d'essayer d'encourager ceux qui veulent aller de l'avant. Vous parliez des indicateurs économiques. Je suis absolument d'accord avec vous pour dire que nous avons un problème aujourd'hui d'indicateurs quantitatifs et d'une vision de la croissance comme strictement quantitative. Mais là aussi, nous avançons. Qui parle de la nouvelle directive sur la responsabilité sociale des entreprises qui était votée par l'Union européenne et qui prévoit que désormais les entreprises doivent tenir non seulement une comptabilité financière, mais également une comptabilité de leur impact social et environnemental, et qu'on jugera désormais les entreprises et potentiellement qu'on alignera aussi la rémunération de leurs dirigeants sur l'impact social et environnemental de l'entreprise. C'est quand même aussi une avancée majeure. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on se flagelle et est-ce qu'on passe notre vie à nous indigner sur les réseaux sociaux en disant rien ne va, ou est-ce qu'on essaie d'avancer et jeter toutes nos forces dans la bataille?
Emma, c'est ça la question. Un mot pour répondre à Patrice?
Moi, je crois que derrière tous nos pays, si je regarde juste le prisme de l'eau, eh bien c'est cool de l'eau et c'est à terrain. Je suis totalement d'accord, il y a une logique extractiviste aujourd'hui. Si je regarde uniquement au niveau des nappes d'eau fossiles, eh bien nous avons tellement prélevé d'eau dans le monde entier que nous avons été capables de modifier l'axe de la Terre de 80 cm vers l'est. C'est tout de même assez significatif que la Terre ne tourne plus très rond, parce que ce modèle extractiviste ne pense jamais au fait que l'on retire des masses en profondeur, que l'on va mettre en surface et qui vont totalement déstabiliser le milieu. Je crois qu'il a raison quand il parle effectivement de cette agriculture vivrière qui se perd. Nous perdons notre résilience alimentaire. Je le vois en ce moment avec le Maroc. On développe massivement l'arboriculture à l'export parce que ça rapporte beaucoup au pays. On a vidé les nappes à cause de ça. Et les petits paysans locaux qui, jusque-là, étaient autonomes, eh bien, finalement, n'ont aujourd'hui plus rien. Et on coupe l'eau, même jusqu'au tourisme où il n'y a plus d'eau dans les douches. On doit se poser des questions.
Question de Thomas sur l'application. Avec les guerres, le retour du populisme, la complexité géopolitique, voyez-vous un chemin pour que la lutte contre le réchauffement climatique soit la grande priorité pour les peuples et donc les politiques, François Gémen?
Politiquement, je ne vois pas de chemin pour le moment. Non. On sait malheureusement que la question de l'écologie n'est pas quelque chose qui va rapporter des voix. Hélas, et je le déplore, et j'en sais quelque chose, et aujourd'hui, beaucoup de politiques ont bien compris, s'ils commençaient à parler d'écologie, ils allaient donner une vision un peu contraignante, voire punitive, et donc on n'en parle plus guère, et donc on recule, effectivement. Par contre, là où je vois une voie peut-être plus porteuse d'espoir, c'est via l'économie. Je vois aujourd'hui que l'économie décarbonée devient de plus en plus rentable, les énergies renouvelables notamment deviennent de plus en plus rentables, et il y a de plus en plus d'entreprises qui font un virage et qui prennent des décisions parfois courageuses. Alors, on n'y est pas encore, mais malgré tout, il y a quelque chose qui se passe, et je suis plus optimiste quant à la réaction du monde économique qu'à celle du monde politique. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup de nos gouvernements sans vraiment leur donner jamais le mandat d'agir.
Et vous, Emma Aziza, politique, écologie, économie?
Alors, sur le plan économique, moi, ce que je déplore, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que les grands groupes, les industriels, tout le monde a fait son empreinte carbone. On est totalement fair, c'est-à-dire qu'on sait vraiment où on en est. On essaye derrière de diminuer, mais on regarde qu'un bout de la lorgnette. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle grande tendance des systèmes de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est maintenant d'aller sur la biodiversité. Ce qui est assez intéressant avec l'eau, c'est que vous répondez au problème de la biodiversité et en même temps au cycle du carbone. Tant qu'on ne comprendra pas que pour prélever 2 molécules de carbone dans l'atmosphère et être un puits de carbone, il faut 12 molécules d'eau, tant qu'on ne comprendra pas que s'il y a des sécheresses et s'il n'y a plus d'eau dans les sols, il n'y aura aucun puits de carbone, et tant qu'on ne travaillera pas de manière systémique et globale, en fin de compte, on ne réglera qu'une partie de la fièvre que l'on a actuellement.
Merci à tous les deux, Emma Aziza, François Gémen, d'avoir été à notre micro ce matin.